Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing en ligne et podcasting. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste devenue entrepreneur du web. Je vous aide à faire du podcast le meilleur atout de votre business, un support pour atteindre plus de monde et devenir la référence dans votre domaine. Téléchargez mon guide gratuit pour découvrir les trois étapes indispensables pour lancer son podcast, disponible à l'adresse safiagourari.fr/guide. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Je vous retrouve aujourd'hui avec un épisode un peu différent puisque je vais vous parler de mon histoire, de mes études, de mon parcours, de ma carrière, un peu tout ce qui m'a amené à la personne que je suis aujourd'hui et à la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Je crois que je vous ai jamais vraiment parlé de moi, j'en voyais pas vraiment l'intérêt pour tout vous dire, mais finalement, après quelques suggestions, je me suis dit que ce serait intéressant pour vous déjà d'en savoir plus sur la petite voix que vous écoutez chaque semaine. Et si j'ai la possibilité, ne serait-ce d'inspirer une seule personne avec ce que je vais vous dire aujourd'hui, non pas que j'ai la prétention de penser que j'ai un parcours incroyable, mais voilà, j'ai fait des petites choses qui peut-être vont vous aider parce que vous êtes dans la même situation, bah, ce serait super. Donc voilà, la motivation derrière l'épisode d'aujourd'hui, alors j'ai rien préparé puisque je pars du principe que c'est ma vie et qu'a priori je la connais, j'ai pas besoin de notes, donc ça risque d'être un peu fouillis, je vous le dis tout le temps, j'ai un esprit qui est très brouillon. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. Pour tout vous dire, je pense que depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai eu des problèmes de confiance en moi et je me suis jamais imposée. J'ai jamais été le genre de personne à se poser comme leader, à diriger ses copines, etc. J'ai plutôt été du genre à me mettre dans un coin, à me faire toute petite. Et si on ne remarquait pas, je dois vous avouer que ça m'arrangeait pas mal. Donc j'étais du genre à rester dans mon coin, très solitaire. Je passais beaucoup de temps seule et ça me dérangeait pas, pour le coup. Chez moi, j'étais souvent dans ma chambre en train de soit enregistrer mes chansons préférées sur des petites cassettes, soit en train de danser sur les sons d'Undo Stress et Spice Girl et compagnie. Je vivais ma petite vie, ça me dérangeait pas. Je pensais pas trop au futur et en fait, j'avais pas vraiment de passion. Enfin non, j'en avais pas du tout. Il y avait pas une compétence que je maîtrisais, une chose pour laquelle j'étais douée. J'ai toujours pensé que j'étais une personne qui était dans la moyenne, une personne lambda, on va dire. Donc, quand est arrivé, je crois que c'était au collège, le moment de choisir un peu son orientation, comme j'avais pas d'idée de ce que je voulais faire, j'ai écouté la conseillère d'orientation. je ne veux pas discréditer le métier de conseillère d'orientation, mais bon. Je suis donc arrivée en seconde SMS, sciences médico-sociales, si je me souviens bien. Alors moi, ça me dérangeait pas parce qu'il y avait mes copines. Au début, ça me dérangeait pas. Très vite, je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas du tout. Et que ça allait être compliqué pour moi de finir des études dans cette thématique. Je me voyais clairement pas faire un métier en rapport avec tout ça. Donc j'ai décidé de changer. Alors il y a eu plein de réticences auprès de mes profs sur le fait que je voulais passer en première littéraire. Mais finalement, ma prof de français m'avait pas mal aidée. Donc voilà, j'ai bifurqué. Et on était deux d'ailleurs dans ma classe, deux de cette catégorie SMS à aller en L. Donc là, pour le coup, je me suis découvert pas une passion, mais j'aimais bien ce que je faisais, j'aimais bien l'histoire, j'aimais bien le français. Donc je me suis dit, voilà, en fait, je suis cette personne, je suis une personne littéraire qui aime bien écrire, qui aime bien lire. Je suis pas du tout dans tout ce qui est maths, sciences, etc. Les maths, c'est un enfer pour moi. Si je vous dis que j'ai eu 4 au bac, je pense que vous comprenez, c'est que vraiment, il y avait... Je pense que mon cerveau fait un blocage. Donc voilà, j'ai fait mon bac L, arrive la fin du bac et là on me dit de choisir ce que je veux faire. Alors c'était sûr que j'allais faire des études parce que je me voyais faire un métier important. Enfin important dans le sens où j'allais impacter la vie des gens et je partais du principe que j'avais besoin de faire des études pour ça. Je pouvais pas aller en école de commerce parce que mes parents avaient pas les moyens de me payer ça. Donc je me suis dit que j'allais aller dans une fac. J'ai longtemps cherché ce que j'allais faire. Puis finalement, je vous l'ai déjà dit, je pense, dans un épisode, j'ai suivi mes copines. C'est un peu débile, hein, mais c'est la vérité. Elles partaient en droit à Amiens. Et je me suis dit, ok, je vais y aller aussi. Avec le droit, il y a plein de débouchés. Parce que quand vous êtes dans l'année du bac, on vous parle de débouchés sans arrêt. Ce mot, il est constamment dans votre tête. Donc, je me suis dit, je vais aller en droit. Il y a plein de débouchés. Je vais découvrir une nouvelle ville. Je vais voilà, vivre un peu ma vie, etc. Donc, on verra ce que ça donne. Donc, je me suis lancée là-dedans. Alors, il faut savoir que je bosse à côté de mes études depuis... Enfin, j'ai bossé à côté de mes études dès que j'ai eu 18 ans. Donc, je travaillais au parc Astérix les week-ends et puis pendant les vacances. Donc, en gros, la semaine, j'allais en cours, je faisais mes TD, etc. Et puis, le week-end, j'enfilais un petit... pas un déguisement, mais un uniforme. Je faisais des barbes à papa, je vendais des sandwichs, etc. Donc, en fait, cette expérience est, pour le coup... Alors, les gens qui vont au parc Astérix sont très mal polis, sont pas sympas du tout. L'ambiance de travail était géniale parce que je travaillais avec des gens qui avaient mon âge, donc c'était génial. J'ai rencontré plein de gens trop sympas. Je m'amusais beaucoup au travail, mais alors les visiteurs, ils nous traitaient comme de la merde, hein, on va dire les choses comme elles sont. Donc c'était un métier qui était quand même assez difficile. Et pour le coup, le fait d'être en cours et d'avoir ce job, ça me permettait de me dire, il faut que tu travailles à l'école si tu veux pas faire ça, toute la semaine quoi. Si tu veux pas faire ça toute la semaine et être confronté à ces gens qui te parlent comme si t'étais un chien, ben tu vas continuer tes études et tu vas aller au bout. Donc ça a été ma motivation pour ces études de droit, parce que j'ai jamais vraiment aimé le droit en soi. Alors il y avait des matières que je trouvais intéressantes, mais dans l'ensemble, c'était pas fun, c'était pas un truc où je me disais, j'adore, je vais faire avocat, tout ceci, cela. Je me voyais, dès le début, je me suis vue comme juriste d'entreprise, parce que je me suis dit... c'est du droit, mais en même temps, c'est en entreprise. Donc voilà, c'est pas l'avocat, le juge, ou l'huissier, ou le notaire, ou ce que vous voulez. Donc je me suis dit, ça va me permettre d'avoir un job qui soit peut-être un peu plus fun, et pas aussi ennuyant. Alors, no offense aux avocats, huissiers, notaires, etc. C'est juste que c'était pas du tout mon truc. Pour le coup, mes années fac, ça a pas été la folie en mode fête... rencontre de fou, etc. Alors, vu mon caractère introverti et le fait que je me mélangeais pas trop, en fait, c'était pas possible. Il y avait aussi le fait que je travaillais les week-ends, donc je pouvais pas sortir avec tout le monde, et en même temps que tout le monde, puis j'aimais pas ça non plus. Enfin, j'aime pas être entourée de plein de gens. Voilà, c'est ma façon d'être, c'est comme ça. Pendant mes études, j'ai aussi découvert les examens oraux. Et j'ai découvert mon aversion pour le fait de parler devant plusieurs personnes. J'ai découvert que c'était pas du tout mon truc et que c'est quelque chose qui était une grosse source de stress pour moi. C'est-à-dire que quand j'avais un examen à l'oral, le matin, je me levais et j'allais vomir. Tellement j'étais stressée, ça me donnait mal au ventre de me dire que j'allais être... que j'allais passer un examen à l'oral, quoi. C'était... Dès ce moment-là, j'ai aussi compris que je pourrais pas être avocate, puisque je perdrais tous mes moyens au tribunal. Donc, je me suis dit, déjà, ça me permet d'éliminer des choses et de comprendre que certaines choses sont pas faites pour moi. Donc, j'ai fait ma licence en droit privé. J'ai ensuite fait un master... qu'est-ce que j'ai fait ? Droit des affaires. J'ai fait du droit des affaires. Là, j'ai découvert la fiscalité, la compta, et je me suis dit, quel enfer ! Quel enfer ! Dans quoi est-ce que je me suis lancée ? Mais en même temps, je me voyais pas faire autre chose. Je vous avoue qu'en fait, tout était très flou pour moi. Et je me disais pas, ma destinée, c'est de faire ça. Ce qui m'anime, c'est de faire ça ou ça. En fait, je suivais le mouvement. J'étais, si vous voulez, dans une dynamique où je me disais, ce qui compte, c'est d'aller au bout. C'est d'avoir le diplôme Bac plus 5, point barre. Le reste, on verra plus tard. Comme ça, mes parents seraient fiers, et mon oncle et ma tante aussi. Puis tout le monde, voilà, j'aurais plein d'encouragement. Et on pensera que... je fais quelque chose de fou parce que, enfin, dans ma famille en tout cas, mon frère et ma sœur n'ont pas fait de grandes études. Enfin, de grandes études. Si, si, ils ont fait. Ils ont tous les deux un BTS en gros, mais je suis la seule à avoir bac plus 5. Donc je me disais, faut que t'ailles au bout, faut pas que tu lâches, même si c'est pas quelque chose qui m'animait, juste pour les apparences et pour faire plaisir à mes parents. Et je me suis dit, une fois que t'as ton bac plus 5, eh ben, tu verras ce que t'aimes faire. Et bien évidemment, je ne vous recommande pas de faire la même chose. Avoir un diplôme juste pour faire plaisir, c'est. Jamais une bonne idée, parce qu'il faut penser à soi, à ce qu'on aime, à ce qui nous anime, et c'est pas ce que j'ai fait. Et je pense aussi qu'il y a une partie de moi, en fait, qui avait peur d'entrer dans le monde du travail, et je me disais, tant que je suis à l'école, je suis en sécurité, parce que je sais ce qu'il faut faire. Je sais qu'il faut que je révise, et qu'ensuite, je recrache tout sur ma copie, et tout se passera bien. Donc je pense aussi qu'il y avait ça, le fait que voilà, c'était assez flippant pour moi de me dire que j'allais entrer dans le monde du travail, et que j'allais arrêter les études, alors que c'est ce que je faisais, c'est ce que j'avais fait toute ma vie, en fait. Toute ma vie, j'avais été à l'école, donc le fait de passer à autre chose, ça me faisait un peu peur. il y avait, après, je me suis aussi dit, une fois que j'ai eu mon master, que je me sentais pas prête à entrer dans le monde du travail. Cette peur a sûrement dû jouer, hein. Mais j'avais l'impression que ce que j'avais appris jusqu'ici, c'était très théorique et que j'étais pas prête à devenir juriste d'entreprise, que je serais pas à la hauteur de ce que l'on allait me demander. Donc je me suis dit que j'allais faire un MBA en école de commerce, un MBA droit des affaires management. Alors j'ai essayé de trouver une alternance pour ne pas payer les 10 000 euros que ça allait me coûter, mais j'ai pas trouvé. Et comme j'avais pas la somme, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Et en fait, pendant cette année, j'ai travaillé. Je vendais des bagels et je me suis dit, tout l'argent que je vais gagner là, je le mettrai de côté. Et puis, il y a en fait, dans l'école que je visais, qui était l'ESG, il y avait une rentrée en septembre et une rentrée en janvier. Donc moi, comme c'était au début de l'année 2014, je crois, je me suis dit, toute l'année, je vais travailler et puis je postulerai aux inscriptions de janvier. Et puis là, en 2015, je pourrais faire mon MBA finalement. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé, j'ai vendu des bagels parce que moi, j'ai beaucoup travaillé en restauration. Donc je me suis dit, c'est le plus simple. J'ai travaillé dans un petit fast-food comme ça. Et les conditions de travail, c'était l'enfer. Parce que j'avais, si vous voulez, c'était une chaîne. Et donc à la tête de l'équipe, il y avait un espèce d'assistant manager qui déjà était plus jeune que moi et qui ne savait pas manager, qui parlait très mal. Et c'est-à-dire que, alors je suis une personne très introvertie et très réservée, pour autant, si on m'attaque, je vais répondre. Et je vais répondre très méchamment. Ça, pour le coup, j'ai aucun mal à me défendre. Donc c'est-à-dire qu'en fait, aller au travail, c'était devenu une source de stress parce qu'il me parlait mal, que je lui répondais, que ça me mettait une mauvaise ambiance. Et en fait, c'était une vraie pression psychologique. Et chaque jour, je faisais bonne figure. Pour autant, quand je rentrais dans ma voiture et qu'il s'agissait de reprendre la route pour rentrer chez moi, je peux vous dire que je faisais pas la fière, quoi. C'était pas... Il m'arrivait plusieurs fois de pleurer dans ma voiture, toute seule. Et j'ai dû tenir 7-8 mois. Et ensuite, je me suis dit, je peux pas, en fait. Je peux pas vivre ça tous les jours. C'est pas la vie que j'ai envie de mener. Ce travail, il est nul. Les gens avec qui je bosse, ils sont pas cool. Donc j'ai arrêté. J'avais pas la totalité de la somme. Il manquait de 3 000 euros et du coup, je les ai empruntés à mon frère, en fait. Donc voilà. Ensuite, est arrivée la rentrée de janvier, j'ai été acceptée dans l'école, j'ai fait mon année de MBA, j'ai adoré ce que j'ai appris. C'était hyper pratique, c'était intéressant, j'ai découvert le marketing, j'ai découvert la com, des choses que j'avais jamais appris, que je connaissais pas du tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'aime bien et c'est ça que j'aurais dû faire comme étude. Bon, c'était un peu trop tard, hein. Mais pour le coup, cette année de MBA, j'ai adoré. Ensuite, voilà, j'ai fait mon stage et puis j'ai commencé ma carrière dans le juridique, juriste d'entreprise, du coup. À côté de ça, j'avais créé un blog. Alors, j'avais commencé par un compte Instagram, parce qu'en fait, en 2015, du coup, j'ai rencontré mon compagnon d'aujourd'hui, et lui avait remarqué que je regardais beaucoup les youtubeuses, que je lisais des blogs, que je suivais plein de gens sur Instagram. Et il m'a dit, mais pourquoi tu le fais pas, en fait? Et c'est vrai que ça m'avait jamais traversé l'esprit. Je regardais des chaînes YouTube depuis 2010, 2011, 2012. Je sais qui sont les premières blogueuses youtubeuses françaises parce que j'étais une grande consommatrice. Pas une seule fois, ça m'avait traversé l'esprit que je pouvais aussi faire ça. Alors que j'adorais, hein, mais ça m'avait jamais traversé l'esprit. Donc en gros, c'est lui qui m'a lancé là-dedans. Sinon, je l'aurais jamais fait. Donc j'ai créé mon blog. Du coup, c'était en... Alors, fin 2015 et je l'ai lancé début 2016. En janvier 2016, il me semble. Donc voilà, le blog My Trendy Lifestyle est né. Donc d'où le nom d'aujourd'hui, si vous débarquez et vous vous demandez pourquoi je m'appelle, enfin c'est mon pseudo alors que je parle d'entrepreneuriat et de podcasting, c'est parce qu'en fait j'ai le même depuis 4 ans maintenant et j'y suis un peu attachée, donc j'ai pas, d'un côté j'ai envie de le changer mais d'un côté j'ai pas envie. Donc voilà, j'ai lancé mon blog, je publiais très régulièrement parce que j'adorais ça, je partageais un peu de tout, il n'y avait pas de ligne éditoriale, c'était un blog pour le plaisir, donc je partageais des conseils d'organisation, les séries que j'avais regardées, etc. Alors, je m'appliquais quand même, parce que je lisais beaucoup de blogs et j'avais vu différents sites, je voyais ce que j'aimais pas, donc voilà, j'avais construit mon site, ça fonctionnait plutôt bien, et quelques mois après, on va dire 6 mois je crois, après le lancement de mon blog, j'ai reçu une proposition pour un partenariat. Donc c'était juste, on m'offre un produit et puis j'en parle sur le blog gratuitement, voilà, comme ça. Donc je me suis dit, déjà c'est trop cool, j'étais trop contente qu'on s'intéresse à moi. C'était des coques de téléphone. Donc voilà, j'avais eu genre 4-5 coques de téléphone pour un seul téléphone, bien sûr. aucun sens, mais bon, à ce moment-là, j'étais très contente et très fière de l'intérêt qu'on pouvait me porter. L'année a continué, on a commencé à me proposer des propositions de collaboration rémunérées. Et là, je me suis dit, quoi ? Est-il possible de gagner de l'argent avec son site internet ? Parce que moi, ce que j'avais vu dans tous les sites, c'était que pour vivre de son blog, il fallait... En gros, il y avait genre 15% des blogueuses qui arrivaient à générer de l'argent. Donc je m'étais dit, pour moi, c'est pas possible. Puis de toute façon, j'ai mon job. Donc voilà, je m'en fiche. Et en fait, j'ai eu cette proposition d'article sponsorisé. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc j'ai fait mes recherches et j'ai découvert le monde du web, la monétisation. Et là, ça a été une illumination. Vous voyez, il me visualisait moi devant mon ordinateur avec cette lumière éblouissante qui sort de l'écran. C'est un peu ce que j'ai vécu quand j'ai découvert qu'un site, ça pouvait se monétiser. Donc ensuite, après quelques recherches, j'ai vu qu'il y avait différentes façons de générer de l'argent avec un site. J'ai essayé un peu d'affiliation, mais ça m'avait rien apporté, vraiment des cacahuètes. Donc je me suis dit, ça c'est nul, l'affiliation. Enfin, j'avais dit ça, ça a bien changé depuis. Mais bon, je me disais, voilà, c'est pas intéressant pour moi. Les publicités, non, ça me plaît pas trop. Et puis avec le temps, j'ai découvert qu'on pouvait créer et vendre des produits digitaux. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert ça, personnellement, je n'avais pas d'expertise précise. Je ne me voyais pas enseigner une chose particulièrement, donc j'ai gardé l'idée dans la tête. Et voilà, j'ai fait ma vie, j'ai découvert Pinterest, qui était pour moi une source énorme d'inspiration. J'ai décidé de me mettre à Pinterest pour moi aussi en profiter. Et finalement, j'ai découvert que c'était une plateforme extraordinaire quand on est des créateurs de contenu. J'ai eu des résultats de fou, c'est-à-dire que je crois que j'étais passée en mars ou avril de 16 000 visites mensuelles sur mon blog à 200 000 en octobre. Et là, je me suis dit, elle est là ton expertise. Là, il y a un truc à faire. Là, tu peux créer un produit digital et le vendre. Donc, j'ai créé un guide Pinterest PDF qui faisait à peu près 80 pages et qui apprenait aux blogueuses à utiliser Pinterest pour générer du trafic sur leur site. Peut-être que parmi les personnes qui m'écoutent, il y a des gens qui l'ont acheté. Donc, j'ai lancé ça. Alors, c'était un prix vraiment mini parce que gros syndrome de l'imposteur, gros manque de confiance en soi. Je l'avais vendu, je crois, 9,99. Ensuite, j'avais augmenté à 17. Je suis passée par étapes, mais toujours dans les petits prix. Ensuite, c'était passé à 33, machin. Voilà, en gros, c'était des petits tarifs. Mais donc, j'avais vendu 121 e-books. J'avais décidé ça et je l'ai vendu en novembre 2017. J'en avais vendu 121 dans le mois. Et j'étais choquée. Je me suis dit, mais attendez, c'est juste incroyable. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bouche à oreille, finalement, sur cet e-book. Les blogueuses qui l'avaient acheté, qui avaient eu des résultats, en parlaient sur Twitter, elles en parlaient sur Instagram, elles en faisaient des articles de blog. Et du coup, ça m'a permis comme ça de gagner en visibilité. Et cette année 2017, alors pour vous mettre un peu dans le contexte, je gagnais de l'argent avec mon blog depuis 2016. Mais du coup, comme j'avais peur de créer une entreprise, j'avais peur de sauter le pas, j'étais en portage salarial. Donc ça me permettait d'avoir un statut de salarié. Par contre, la société du coup qui s'occupait des factures, de récolter le paiement, elle me prenait bien évidemment une commission. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ces commissions étaient trop élevées pour que je reste sur ce modèle. Donc j'avais créé ma micro-entreprise en septembre 2017. J'ai lancé l'e-book en novembre. Et du coup, sur cette année 2017, donc j'avais gagné de l'argent pendant 2 mois. J'avais gagné, je crois, 2 500 € entre novembre et décembre. Et j'étais trop fière. C'était un truc de fou pour moi. J'étais en mode, j'ai réussi quoi. 2 500 € sur 2 mois et j'étais trop, trop contente de me dire que c'était grâce à mon site et grâce à un produit que j'avais créé. J'ai oublié de vous parler de la fin de ma vie de salariée de juriste. En fait, il se trouve que mon activité de juriste d'entreprise ne me plaisait pas forcément. Moi, j'étais spécialisée en droit des affaires et je me retrouvais dans une entreprise à faire du droit du travail, ce que je détestais et que j'avais évité pendant toutes mes études. Mais c'était ce qu'on me donnait à faire, donc voilà, c'était pas ce que j'aimais. Il y a aussi le fait que la vie dans cette entreprise, en tout cas, ne me convenait pas. Alors, j'étais une juriste junior et c'est vrai que pour certaines personnes, j'étais invisible et c'était très bizarre pour moi. Donc, on était dans un bureau. En gros, le service juridique, c'était un bureau. On était 3. Il y avait la directrice juridique, l'autre juriste et puis moi. Et en fait, il y a des gens qui entraient dans le bureau, qui disaient bonjour aux 2 autres, qui discutaient avec elles et qui... Comme si j'étais pas là, comme si j'existais pas. Et je me disais que c'était trop bizarre, en fait, de fonctionner comme ça et que je voyais pas pourquoi... Je voyais pas en quoi le fait que je sois novice et que je sois junior, ça me donnait une moindre importance, en fait. Je comprenais vraiment pas ce concept. Bon, tout le monde n'était pas comme ça. Hein. Il y avait des gens très sympas avec qui je discutais et tout. Mais c'est vrai que ça m'avait choqué de me dire que bah, si c'est comme ça, en fait, la vie en entreprise, bah, je veux pas. Parce que c'est pas parce que t'as un poste plus élevé que tu peux pas juste me dire bonjour, quoi. Donc dès que j'ai eu la possibilité, dès que j'ai eu de l'argent avec grâce à mon blog, j'ai dit ciao. J'ai dit c'est bon, j'en ai marre, je me tire. En plus, j'ai travaillé à Rueil-Malmaison dans le 92 alors que j'habitais dans l'Oise. Donc en gros, je devais prendre un train pour aller jusqu'à Gare du Nord. Gare du Nord, aller jusqu'à Nation. Ensuite, je devais prendre un autre RER pour aller jusqu'à Rueil-Malmaison, puis je devais prendre un bus pour arriver jusqu'à l'entreprise. Franchement, je devais mettre 2 heures pour aller au travail quand il n'y avait pas de problème et c'était juste infernal, quoi. Je me disais, je peux pas faire ça, en fait, toute ma vie. Je peux pas, c'est pas ce que je veux. Donc voilà, j'ai arrêté. Ma famille, mes parents l'ont mal pris, enfin surtout ma mère. Elle s'est beaucoup inquiétée pour moi. Et le fait que je quitte un job salarié pour me lancer à mon compte, elle savait pas ce que c'était un blog, elle savait pas comment ça fonctionnait. Donc en gros, je me suis pris pas mal de réflexions à chaque fois qu'on se voyait, mais je me suis dit, c'est ma vie. J'ai mes diplômes, ok, ça va me servir de bagage. Maintenant, je fais ce que moi, j'ai envie de faire. Donc, j'ai tenu tête, ce qui était une grande chose pour moi. Donc, j'ai tenu tête et je me suis lancée quand même dans ce que j'aimais faire. Aussi parce qu'il y avait mon compagnon qui m'encourageait, qui me soutenait dès le départ, en fait. Il m'a soutenue et il a cru en mes capacités à faire un truc avec mon site. Donc, je me suis dit, c'est bon, je me lance, je me sens capable, en fait. Donc, voilà, je me suis lancée comme ça. C'est comme ça que j'ai abandonné mon job de juriste et que je me suis lancée à mon compte. Et donc, mes parents ont eu du mal à comprendre comment ça fonctionnait. Et ma mère a eu du mal à comprendre que je puisse travailler de chez moi, c'est-à-dire qu'elle m'appelait à n'importe quelle heure, comme si je n'avais rien à faire de mes journées. Donc ça a été aussi compliqué de lui expliquer. Mais finalement, avec le temps, quand j'ai commencé à lui expliquer en détail, lui montrer combien je gagnais, etc., plus tard, elle a compris que ok, il y avait quelque chose et que j'étais pas en train de foncer dans le mur. Donc voilà pour la partie abandon du job de juriste pour se lancer à son compte. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais lancé le fameux guide Pinterest, mon premier produit digital fin 2017. Ensuite est arrivé 2018 où là mes revenus étaient très irréguliers, c'est-à-dire qu'il y avait des mois où je gagnais 500 €, d'autres j'atteignais les 1200 et j'étais hyper heureuse parce que je me disais c'est le starting point, en fait, ça veut dire que t'as gagné un SMIC, donc c'est génial. Et voilà, donc ça faisait un peu des vagues comme ça, 850 €, 600 €, 1000 €, ensuite 700, voilà, c'était un peu comme ça tout le temps. Pour tout vous dire, j'avais pas vraiment de stratégie de contenu, pas de stratégie de vente, je parlais pas énormément de mon guide Pinterest. Parce que gros syndrome de l'imposteur, donc voilà, j'en faisais pas la promotion active, comme c'est le cas maintenant avec mes autres produits. Faut aussi que je précise qu'à cette époque-là, j'étais encore full-time, j'étais encore blogueuse, influenceuse, entre guillemets, donc je gagnais aussi de l'argent via les collaborations. Collaborations qui sont très incertaines, en gros, on peut pas anticiper quand est-ce qu'une marque va décider de travailler avec nous et de manière rémunérée. Donc voilà, c'était un modèle qui était pas ouf, et dans ces moments-là, je suis contente. Très reconnaissante plutôt d'avoir eu mon compagnon, parce que sans lui, j'aurais jamais pu payer un loyer, en fait. J'aurais jamais pu avoir une situation stable comme c'était le cas. Il y a eu des anniversaires ou des Noëls où j'ai pas pu lui acheter de cadeaux parce que j'avais pas d'argent, mais en même temps, au fond de moi, je savais que c'était temporaire et je savais qu'il allait arriver un moment où ça allait faire boum et où voilà, j'allais pouvoir exploser. C'est bizarre de dire ça, hein, mais vraiment, au fond de moi, j'étais persuadée que c'était temporaire et que j'allais pouvoir lui rendre tout le soutien qu'il m'avait apporté, et même plus encore, que j'allais pouvoir avoir une situation bien meilleure que ce que j'aurais pu avoir avec le job salarié que j'avais avant. Donc cette année 2018, j'ai développé mon activité d'influenceuse sur Instagram. Je faisais un peu la promotion de mon produit numérique qui était mon guide Pinterest. J'avais lancé un autre produit qui était un cours pour apprendre à créer un blog et le monétiser, dont je vous ai déjà parlé puisque le lancement a fait un véritable flop. Et quand un lancement fait un flop, en fait, ça veut pas dire que le produit est nul, c'est juste que notre communication et notre stratégie n'étaient pas au point. Et ça, je le savais pas. Donc en fait, j'ai mis ce produit de côté. J'en ai lancé un autre un peu plus cher et j'avais l'impression que je faisais un truc de fou parce qu'il coûtait je crois 100 €, quelque chose par là. Donc c'était incroyable. Ça, c'était au mois de septembre 2018. Et du coup, sur ce mois-là de septembre, j'avais gagné, pour tout vous dire dans le détail, 1 773,03 €. J'étais très contente. Sur cette année 2018, j'avais gagné 12 000 € de chiffre d'affaires sur toute l'année. Et j'étais contente. Pour moi, c'était super. Et je me suis dit, voilà, c'est pas ouf, mais c'est déjà pas mal. Et je ferai mieux l'année d'après. Donc voilà, chiffre d'affaires 2017, 2000 et quelques, chiffre d'affaires 2018, 12 000. Donc je me dis super, j'ai 10 000 euros de plus. Arrive 2019 et là, mon côté influenceuse gagne en visibilité et je suis démarchée pour des voyages. J'ai beaucoup plus de propositions. Cette année 2019, elle a été remplie de voyages, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un mois où je ne voyageais pas. Il faut savoir qu'en fait, à la base, mes parents n'ont jamais pu nous payer des vacances. Enfin, une fois, quand on était petit, on avait eu un week-end à Disney. Mais sinon, en fait, je sortais pas de France. J'avais jamais vu le monde, à part dans des vidéos et des photos. Donc cette année 2019, enfin j'avais déjà voyagé un peu en 2018, hein, qu'on se le dise, mais du coup cette année 2019, elle a été incroyable parce que c'était grâce à mon blog et à mon compte Instagram que j'avais la possibilité d'aller dans des endroits de fou, genre la Martinique. Moi ça a été, je crois que ça a été l'un de mes plus beaux voyages. J'ai découvert Miami, j'ai découvert la Grèce. Enfin, j'ai fait énormément de choses que j'aurais jamais imaginées. Donc, sur cette année 2019, je me suis pas mal amusée. J'ai découvert plein de choses. Pour autant, niveau chiffre d'affaires, c'était pas ouf non plus. Encore une fois, j'avais un chiffre d'affaires en dents de scie, en fait. J'étais toujours à 1500... Enfin, en moyenne, toujours à 1500. Des fois, j'avais 2500 euros de chiffre d'affaires. Par contre, il y a un mois... C'était le mois de juin 2019 où j'ai gagné 349 euros et 13 centimes. Et ce mois-là, c'est un mois où j'avais eu deux voyages presse dans le mois, deux ou trois, je sais plus. En gros, j'avais pas passé plus d'une semaine chez moi. Et ça s'est ressenti dans mon chiffre d'affaires parce que j'étais trop occupée, donc je faisais aucune promotion, il se passait rien. Et quand à la fin du mois, je me suis rendu compte que j'avais gagné 350 euros, j'ai été abattue. Et je me suis dit, waouh, en fait... C'est bien de voyager. Là, ça a été la grosse prise de conscience. Mais c'est pas viable, en fait. Là, les voyages, je les fais gratuitement. C'est génial, je découvre des pays. Mais mon entreprise, pas bien. Donc là, je me suis dit, va falloir que tu fasses un choix. Déjà, au mois de juin, je commençais à réfléchir et je me disais, bon, tu vas finir tes contrats et puis ensuite, tu vas réfléchir à quelque chose qui soit plus stable parce que tu peux pas passer de 2500 euros au mois de mai à 350 euros au mois de juin. Ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Il faut que tu fasses quelque chose pour avoir un minimum de stabilité dans ce que tu fais. Voilà, j'ai terminé mon année. Alors, sur l'année de décembre, puisque je vous parle de chiffre d'affaires en toute transparence, sur le chiffre d'affaires 2019, j'ai gagné environ 22 000 euros, donc 10 000 de plus qu'en 2018. J'étais déjà très contente et très fière, mais à ce moment-là, grosse prise de conscience. Qu'est-ce que tu veux faire, Safia? Est-ce que tu veux continuer avec les voyages, le côté influenceur, les collabs, le côté incertain, ou est-ce que tu veux te consacrer à l'infoprenariat? Il va falloir que tu choisisses, parce que tu ne peux pas faire les deux. Il va falloir que tu te concentres sur une chose et que tu la fasses bien. Donc, fin 2019, j'ai décidé de switcher complètement. Mon Instagram voyage est devenu un Instagram d'infopreneur. Mon contenu a complètement changé. Je n'ai plus abordé de voyage, de lifestyle, etc. Je n'ai plus accepté une seule collaboration, aussi alléchante soit-elle. J'ai décidé de me lancer dans ce qui m'animait le plus, finalement. C'était l'infoprenariat. C'était le fait d'enseigner des choses, d'avoir une expertise et d'aider les autres, en fait, à avancer. Pour moi, ça, c'est quelque chose que je me voyais faire sur la durée. Alors que le fait d'être blogueuse et influenceuse, je me voyais pas le faire sur 5 ans, par exemple. Je me voyais pas, en 2025, être encore dans cette situation. Alors que, pour le coup, l'infoprenariat, oui. Je me vois encore en 2025 en train d'enseigner des choses et d'aider les entrepreneurs à vivre de leur activité en toute stabilité et sérénité. Donc j'ai attaqué cette année 2020 avec une nouvelle niche, une nouvelle façon de penser. J'ai aussi décidé de revoir ma façon de travailler parce que avant, c'est-à-dire depuis que je suis à mon compte, depuis 2017, je faisais énormément d'actions et j'allais dans tous les sens, mais sans penser abondance, en fait. J'étais toujours dans le manque, dans le « il faut ». En fait, j'étais beaucoup dans le « faire » et dans le « avoir » et pas dans l'être. Et il n'y avait pas vraiment de plaisir dans mon business, puisqu'il n'y avait pas de stratégie définie et que je faisais un peu tout et n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi, non. Mais je faisais tout, en fait. Et sur cette année 2020, je me suis dit « il faut te concentrer sur ce qui fonctionne. Il faut que tu... te reprennent en main, que tu mettes en place une stratégie et que tu fasses en sorte que cette décennie démarre sur une belle note. Donc j'ai commencé cette année avec de très bons chiffres d'affaires pour moi, en tout cas, hein, aux alentours de 3000 euros et plus, ce qui était nouveau et ce qui était juste génial. Et je me suis dit, sur cette année 2020, je vais faire mes premiers 10K par mois. Ça, c'était un objectif. Et je me suis dit, si t'arrives à faire 10K, t'as réussi. Quand tu feras 10K dans le mois, ta vie, elle va changer. Je me suis dit ça. Et donc, le confinement est arrivé. Et là, grosse prise de conscience encore une fois, je me suis dit, c'est ton moment en fait. T'es chez toi, ton métier il est dans le digital. Il y a plein de gens qui ont malheureusement pas la possibilité d'exercer. Toi, oui. Donc, fais quelque chose d'utile, fais quelque chose qui va impacter les autres de manière positive. Et là, pendant le confinement, j'ai travaillé sur Build Your Podcast, que j'ai lancé au mois de mai. Et donc ce lancement, j'en ai fait un épisode où j'ai parlé en détail de ce que j'avais fait, du chiffre d'affaires, etc. Mais en gros, j'avais fait 30 000 euros cash. Donc c'est-à-dire que... Non, pas cash. 30 000 euros, mais du coup, il y avait des paiements plusieurs fois. Donc sur le premier mois, j'en avais eu, je crois, 22. Et puis sur le mois de juin, j'avais eu le reste des paiements. Donc en gros, c'était ça. Mais du coup, je suis passée de 3 000 euros à, boum, plus de 20 000 d'un coup. Et gros syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que quand je faisais mon lancement, que je recevais les notifications et que je voyais qu'en fait j'avais dépassé les 10K en deux jours et que ça continuait en fait à monter, je me sentais trop mal. Et à chaque fois que je recevais un mail, alors pendant le lancement et dans les semaines qui ont suivi, j'avais peur en fait. J'avais peur qu'on me dise que mon programme il était nul, que c'était de la merde, etc. Et donc j'avais peur d'ouvrir ma boîte de réception, c'était devenu une source de stress. Et je vous le dis parce que peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans et que ça vous arrive, et c'est normal en fait. Parce qu'on passe à un autre niveau, on est dans quelque chose qu'on connaît pas et on a plus de résultats que ce qu'on a eu depuis plusieurs années. Donc forcément, ça fait un peu peur à notre cerveau. Et du coup, il y a plein de pensées qui viennent se mettre... Dans notre tête et qui peuvent nous faire culpabiliser et nous faire un peu peur, quoi. Puis finalement, dans les semaines qui ont suivi, 3 semaines après, 4 semaines après, j'ai commencé à voir les retours des gens qui me disaient que c'était clair, que ça allait droit au but, que ça les avait aidés. Je voyais les podcasts sortir et là, tout est redescendu en fait. Là, je me suis dit, ok, ce produit que t'as créé, il est top, il te ressemble, t'es toi-même dans les vidéos, ta façon de parler, c'est toi, et en plus, ça aide les gens et ça leur permet de... ça t'a permis de rendre le podcast accessible. Et ça, c'est trop cool. Donc ça, en fait, ça a débloqué plein de choses aussi. Je me suis dit, à partir de ce moment-là, tout est possible et tu peux tout faire. Là, tu peux tout faire. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, t'es capable de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Donc je me suis donné les moyens. J'ai travaillé, j'ai peaufiné mes offres, j'ai fait plus de promotions, j'ai apporté de la valeur pour qu'on voit que je connais le podcast, que je peux aider les gens à lancer le leur, à faire connaître leur activité. J'ai vraiment travaillé sur... Je me suis formée aussi. D'ailleurs, j'ai rejoint un coaching de groupe à 12 000 euros. Ça a été l'investissement le plus élevé que j'ai fait et j'étais pas sereine de le faire. J'ai fait des calculs pendant une semaine pour voir si je pouvais me le permettre sur le long terme, comment ça allait se passer, etc. Combien il fallait que je gagne, patati patata. Mais j'ai sauté le pas. Et ça m'a aidé à avancer encore plus et à mettre en place des stratégies géniales. Donc à l'heure actuelle, j'estime, et je vous en ai parlé un peu en story Instagram, que je suis suffisamment formée. Et que niveau stratégie, je suis au point. Je sais quoi faire, je sais vendre, je sais automatiser. Il n'y a pas de souci. Par contre, mon problème, ça va être de travailler sur mon mindset. Comme je continue à avancer, je continue à avoir de meilleurs résultats, mais il y a plein de pensées limitantes qui arrivent, plein d'obstacles qui n'en sont pas et que je vais devoir surmonter. Donc du coup, mon challenge pour 2021, et je pense que je vous ferai un épisode objectif, etc., ce sera de travailler sur mon mindset et d'améliorer ma façon de penser, d'être plus dans l'abondance, dans le plaisir et d'arrêter d'être dans le manque. En tout cas, j'ai dépassé les 100 000 euros de chiffre d'affaires en novembre et c'est juste incroyable. Quand on sait que en 2017, j'ai gagné 2500 euros de chiffre d'affaires annuel. En 2018, j'en ai gagné 12 000. En 2019, j'en ai gagné 22 000. Et là, en 2020, j'ai dépassé les 100 000. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Mon mindset. Je me suis dit, c'est ton moment. Tu peux le faire. Tu vas le faire. Et tu t'en donnes les moyens. C'est la seule chose qui a changé parce que le programme que j'ai rejoint à 12 000 euros, je l'ai rejoint après le lancement de Build Your Podcast parce que j'avais les fonds à ce moment-là. Avant, c'était impossible que je le rejoigne. Mais quand j'ai lancé Build Your Podcast et que y a eu de la trésorerie dans mon entreprise, je me suis dit, tu vas investir pour te développer. Donc, c'est ce que j'ai fait et voilà, j'ai obtenu par la suite, c'est ce qui m'a permis d'avoir moins de dents de scie sur mon chiffre d'affaires. Bon, bien sûr, il y a des pique quand j'ai des lancements. Ça, c'est comme, c'est normal, c'est pour tout le monde, mais dans l'ensemble, mes revenus sont stables et je sais à peu près quelle somme je vais gagner. C'est assez régulier, donc c'est rassurant aussi. Cette année 2020, elle a été hyper enrichissante. J'en ai appris beaucoup sur moi. J'ai changé plein de choses, j'ai peaufiné et je me dis que 2021, ça va être encore mieux. Je suis hyper contente des résultats que j'ai eus en 2020. Alors, je vous ai dit, c'est un chiffre d'affaires, les 100 000, c'est-à-dire que je n'ai pas 100 000 euros sur mon compte en banque. Voilà, c'est un chiffre d'affaires. Donc depuis, il y a eu des dépenses, des machins et tout. C'est juste la somme de tout ce que j'ai gagné tous les mois, du coup, de cette année 2020. Mais c'est une grande fierté. Et du coup, je me dis en route pour la suite, quoi. En route pour 2021. Et j'ai tellement appris cette année que j'aurais tellement à vous partager sur cette nouvelle année qui arrive pour vous aider, vous aussi, à avancer et à obtenir de meilleurs résultats. J'espère que ce que je vous partage aujourd'hui, ça va vous motiver, ça va vous inspirer. Je vous parle de chiffres d'affaires souvent en toute transparence. Vous le savez, mais c'est pas pour show off, c'est pas pour me la péter, c'est juste pour vous donner des informations concrètes et que vous puissiez vous visualiser ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire bien plus que ce que j'ai fait cette année, bien sûr. Vous êtes capable, vous aussi, de passer de 20 000 euros annuels à 100 000. Vous êtes capable de tout. Et c'est ce que j'ai envie que vous compreniez aujourd'hui. Votre mindset, il est la source de tout. Parce que, attendez, j'ai noté un truc. Il y a quelques jours, je regardais un live de Claudia Anatella et elle a dit quelque chose que j'ai noté et que je vais vous répéter mot pour mot. Elle a dit « Nos pensées créent nos émotions. Nos émotions dirigent nos actions. » Et nos actions créent nos résultats. Je pense qu'on l'a déjà tous entendu, mais le réentendre, ça fait sens. Nos pensées créent nos émotions. Nos émotions dirigent nos actions. Et nos actions créent nos résultats. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur cette année 2020. Mes pensées étaient, je peux le faire. Si je m'en donne les moyens, je peux y arriver. Donc forcément, au niveau des émotions, bah ça crée un élan de motivation, de détermination. Ça booste ma confiance en moi. Du coup, forcément, bah, ça impacte mes actions puisque je fais plus de promotion sur mes produits, je crée plus de contenu intentionnel et mes résultats, bah, ils sont différents de tout ce que j'ai eu. Donc, retenez bien cette phrase et notez-la vous aussi parce que je vous assure qu'elle fait sens. Et quand on se rend compte, bah, on fait un peu plus attention à notre mindset. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, j'ai encore des problèmes de confiance en moi. Hein. Tous les jours, je me dis, mais demain, ça va s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe si cela? Et t'es pas assez comme ci, t'es pas assez comme ça. Je travaille dessus. Je pense que c'est un truc que je vais travailler toute ma vie parce que ça fait partie de moi et c'est comme ça. Je sais pas si un jour j'aurai, voilà, je serai hyper confiante, etc. Mais en tout cas, je me dis que malgré tout ça, avec cette confiance qui n'est pas à 100%, j'arrive à évoluer, à grandir. Et c'est juste génial parce que je reste moi-même. Je m'améliore un peu, personnellement, mais je suis encore moi en fait. Je suis toujours moi. Je suis la même personne. Donc voilà. Ça fait 37 minutes de racontage de vie. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant et que vous aurez compris la démarche derrière la réalisation de cet épisode. En tout cas, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me le dire. Ça me fera énormément plaisir. Et puis, si ça vous plaît, je vous ferai d'autres épisodes de ce type, puisque j'ai encore plein de choses à vous dire. Je peux vous parler de ma relation avec l'argent aussi, parce qu'elle a été challengée de fou avec mes récents résultats, mais du coup voilà, c'est quelque chose que je peux aborder si ça peut vous aider, bien sûr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes et ressources mentionnées sur le site mytrendylifestyle.fr et si vous souhaitez rejoindre une communauté d'entrepreneurs ambitieuses et déterminées, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Communauté Build Yourself.